Ah, on est arrivé un petit peu plus vite à Daniel que d'habitude. C'est parce qu'on a une première demi-heure, en fait, une émission assez chargée. Alors, on y va tout de suite. On va parler de dents. Ah
ben
là là,
oui.
Les rages de dents.
J'ai pas une dent contre vous pour autant.
Ah, on n'a jamais de dents contre qui que ce soit ici. On est
non.
Une équipe bienveillante, on s'aime et puis on fait les choses pour que ça soit agréable pour tout le monde.
Oui, et puis pour les auditeurs. Et puis là, je vais m'adresser à des parents qui ont des enfants, qui ont des enjeux particuliers. Et c'est un article qui a paru le 27 juillet dernier. C'est Catherine Hanfield. Ça a paru dans la presse. Et le titre, pour apprivoiser la visite chez le dentiste à petits pois. Et puis, là, c'est la dentiste, là, je veux, retenez bien son nom, la dentiste Tasnim Alami Laroussi, que l'on voit en photo faire un examen. Et à 5 ans, ben Sacha, le petit, a vécu un traumatisme lors d'une visite chez le dentiste. Sa mère, Élise Crevier, préfère ne pas s'étendre sur les détails de ce fameux traumatisme et comment ça s'est arrivé, mais les conséquences de cette intervention se sont révélées préoccupantes. Sacha est née avec une mutation génétique qui s'exprime chez elle par une déficience intellectuelle sévère. Elle ne parle pas et demeure très peu autonome. Après ce traumatisme, elle est devenue donc insoignable et on ne pouvait plus lui brosser les dents. On ne pouvait même plus aller chez le médecin. Aussitôt qu'elle voyait des appareils, des gens avec des masques, elle paniquait, mais complètement. Alors, Élise Crevier, c'est une maman qui est une gestionnaire en entreprise, donc elle a relevé les manches et a pris le tout. Il faut trouver une solution. Alors, le temps n'a pas vraiment arrangé les choses. Un jour d'hiver, alors que Sacha avait une carie, la dentiste a dû sortir de la clinique pour vérifier la bouche de l'enfant et Sacha refusait d'entrer. La carie a été réparée sous anesthésie générale. Élise Crevier, la maman, en est venue à s'inquiéter pour l'avenir de sa fille qui grandissait mais refusait toujours d'être soignée. Parfois avec vigueur, il lui fallait trouver un moyen de la désensibiliser. Il y a eu une approche qui a porté fruit après avoir sollicité plusieurs cliniques qui lui répondaient ne pas avoir l'expertise pour travailler avec des enfants comme Sacha. Ben, Élise a trouvé la clinique Spectrum qui a accepté de relever le défi. Alors, pendant un an et demi, une intervenante est venue chaque semaine à la maison et en parallèle, ben, Élise et Sacha jouaient chaque jour au dentiste. On avait une chaise de plage dans le salon pour imiter le fauteuil du dentiste. On avait dentifrice, brosse à dents, soie dentaire, miroir et Élise augmentait le nombre de secondes graduellement, petit pas par petit pas. Alors, mère et fille ont même visité des bureaux de dentistes près de la maison, juste pour regarder, pour explorer. Et quand Sacha me tirait et me faisait signe « fini, fini », ben là, on repartait. Ben, la patience d'Élise Crevier a porté ses fruits parce qu'il y a 2 ans, à l'âge de 14 ans, Sacha était fin prête. Élise a donc choisi la clinique Sourire Solidaire. Retenez bien ce nom, clinique Sourire Solidaire, située à Laval. C'est une clinique communautaire œuvrant auprès des enfants vulnérables et des enfants à besoins particuliers. Et justement, là, vous allez retenir aussi le nom du médecin, la dentiste, Tasnim Alami Laroussi. Et Tasnim, le docteur, a dit que la dernière fois, Tasnim a donc réussi à faire tout l'examen de Sacha et elle était vraiment fière. Et d'ailleurs, Tasnim Alami Laroussi, elle est cofondatrice de l'organisme Sourire Solidaire. Aussi, on a développé un guide pour donner au suivant, parce qu'elle n'est pas le seul parent, Élise n'est pas le seul parent à devoir composer avec le refus d'un enfant à se faire soigner, et elle a eu envie de donner au suivant. Ça tombe bien parce que l'équipe de Sourire Solidaire avait aussi en tête de rassembler des stratégies pour les parents. En clinique, on est content quand on réussit à faire le soin, mais si à la maison, l'enfant refuse de se faire brosser les dents, on ne règle pas le problème à la racine. Alors, Élise Crevier et l'équipe de Sourire Solidaire ont donc lancé récemment le guide Les petits pas de Sacha. Les petits pas de Sacha, retenez bien, et vous pourrez consulter sur Internet, dans Google, ce guide, dont le but est de favoriser justement l'acclimatation des enfants aux soins dentaires. Mm-hmm. Le guide est offert gratuitement en ligne et il est destiné à la fois aux parents, aux professionnels. Et on peut le retrouver aussi dans les garderies, dans les écoles. Écoutez, c'est vraiment des parents qui en font la demande ou qui l'impriment, ils font l'impriment directement du site. Mais aussi aux enfants, je parle du guide en question pour des enfants aux besoins particuliers, mais il y a aussi des enfants qui sont anxieux ou encore des tout-petits qui en sont à leur premier rendez-vous chez le dentiste. C'est quand même impressionnant chez le dentiste. Alors, la méthode se nomme DT, découverte, éducation, tour de rôle, exécution. Elle comprend 6 exercices, brosse à dents, dentifrice, soie dentaire, brosse à dents électrique, miroir, radiographie, et le tout est très bien expliqué dans le guide. Le site web propose aussi une foule de ressources ainsi qu'un formulaire à remplir avant la visite chez le dentiste pour documenter les défis actuels de l'enfant et les stratégies aidantes. Les dentistes de proximité qui ont envie de travailler avec cette clientèle peuvent s'en servir à ce moment-là. Alors, vous pouvez consulter sur le site web Les Petits Pas de Sacha et on mentionne aussi que les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, des déficiences intellectuelles, des troubles d'anxiété grave ou un trouble déficitaire de l'attention ont souvent en commun l'anxiété. Et l'idée, justement, c'est donc de les préparer et aussi de rester toujours dans le positif. C'est ce qu'explique la docteure Tasnim Alami Laroussi. Il y a aussi tout l'aspect humain, renchérit Élise, la maman de Sacha, c'est-à-dire respecter le rythme de l'enfant. Et justement, grâce à diverses ressources de financement, revenus, subventions, philanthropie, commandites, Sourire solidaire peut compter sur une ergothérapeute et des éducatrices, un centre éducatif et une salle de repos. Alors, comment une clinique dentaire de proximité habituelle peut-elle tirer son épingle du jeu? Donc, selon le docteur Alami Laroussi, pour la majorité des patients à besoins particuliers, de petites adaptations suffisent à rendre le soin plus agréable et mieux adapté. Une couverture sur une chaise, un toutou lourd, une balle anti-stress, des lumières tamisées, des pictogrammes. Ce sont des petits trucs qui peuvent aider justement. Sourire solidaire, c'est aussi un milieu de stage. C'est intéressant pour mes étudiants en médecine dentaire et transmet volontiers son expertise aux cliniques intéressées. Et d'ailleurs, Élise mentionne que lorsque Sacha a vu la couverture douce sur la chaise du dentiste, elle a vu tout de suite que ça fait toute une différence. Et le docteur Alami Laroussi, elle renchérit aussi, elle aimerait que l'État reconnaisse la désensibilisation comme un code qui pourrait être facturé à la Régie de l'assurance maladie du Québec pour favoriser les rendez-vous prolongés avec les enfants à besoins particuliers. Puis moi, j'ai fouiné, je suis allée dans le site des Petits Pas de Sacha. Alors, on s'adresse entre autres, puis il y a 3 groupes. Il y a le premier groupe, les enfants et adolescents avec une déficience cognitive. Il y a le deuxième groupe, les enfants et adolescents avec une peur importante du dentiste ou un traumatisme passé. Le troisième groupe, on s'adresse aux très jeunes enfants en préparation pour la première expérience chez le dentiste. Si je parle ici d'enfants et adolescents avec une déficience cognitive, c'est que ces enfants-là ont des particularités, puis je vais vous en mentionner quelques-unes. Ils ont tout d'abord une sensibilité spécifique au toucher, en particulier au niveau de la bouche. Et ça nécessite aussi de s'acclimater progressivement. On doit progressivement adapter l'enfant à l'examen dentaire. Ils ont aussi une compréhension limitée, c'est-à-dire qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils ont aussi une résistance aux nouveaux environnements. Alors, peut-être qu'il y a des parents qui se reconnaissent avec leur enfant. Il y a aussi la peur de la perte de contrôle lors du soin. Ils ont aussi des apprentissages plus lents, c'est-à-dire une nécessité de répétition et d'habituation sensorielle, d'où Élise qui a pratiqué à jouer au dentiste avec son enfant à la maison. Des capacités restreintes à s'exprimer, frustration accrue et comportement inadapté. Ils ont une difficulté aussi à nommer la peur et l'inconfort. Souvent, peut-être qu'ils parlent pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Et la gestion des émotions, une réactivité ou agressivité qui est possible justement face à la fameuse anxiété, et il y a un risque d'obstacle significatif lors des visites dentaires. Alors ça, c'est pour vous décrire ce groupe-là, mais pour chacun des groupes que je vous ai nommés, les trois groupes, on vous en explique, on vous en dit un petit peu plus. Dans ce guide-là aussi, les parents peuvent retrouver des livres, des vidéos. Il y a aussi des magasins où on peut acheter des jouets, des jeux, des outils, des brosses à dents, ou même simuler avoir un jouet avec une bouche, puis faire brosser les dents de la poupée, ou brosser les dents tout court, ou faire des petits traitements. Alors, l'enfant peut s'habituer doucement. Donc, je trouve que c'est un bel article pour des parents. Puis le dentiste, ben on va le voir toute sa vie. Hein?
Certainement. Et puis, écoute, ce qui me passe par la tête depuis tantôt, ben écoute, à défaut de jouer au docteur, on va jouer au dentiste.
Ben oui, on va jouer au dentiste, oui. Ah oui, puis on va peut-être rendre service en même temps.
Tout à fait. C'est ça.
Donc, c'est à tout petit pas, donc, le fameux guide, sourire solidaire, la dentiste, Tasnim Alami Laroussi, qui est cofondatrice de l'organisme Sourire Solidaire, et le fameux guide que vous pouvez trouver sur Internet en faisant des recherches, Les petits pas de Sacha. Et ça va soulager les parents et ça va faire un rendez-vous beaucoup plus aisé chez le dentiste.
Parfait. Ben écoute, nous, on va se reparler à peu près dans une demi-heure parce que l'émission est un petit peu chamboulée aujourd'hui.
Oui.
C'est de ma faute. J'ai l'habitude de mettre plein d'entrevues un peu partout. Puis là,
oui,
ben, c'était ça qui arrive.
Oui.
Alors, nous, on se reparle à peu près dans une demi-heure.
Parfait.
À tantôt.
Oui,
on va retourner voir notre chroniqueur du jour. J'ai dit mardi tantôt, c'est incroyable. Hein? Je fais toujours la blague, je dis aux gens, c'est pas de ma faute, je suis vieux. C'est l'excuse que je donne à tout maintenant, puis ça règle le problème. Ben, j'ai le droit de me tromper. À 64 ans, je peux me tromper un petit peu. L'ordinateur fonctionne encore dans ma tête, pas mal bien. Alors toi, Daniel, ça va bien toujours?
Ça va très, très bien, merci. Puis justement, vous parlez d'en oublier des bouts, puis
oui,
ça tombe bien avec l'article dont
c'est pour ça que je faisais le lien, je faisais ce commentaire.
C'est en plein ça. On a de quoi avoir le disque dur plein à un moment donné, puis d'en oublier des bouts. Puis justement, c'est l'article qui est paru dans la presse du 14 juillet. Les fameux courriels, est-ce que vous faites dire souvent au travail, « Hey, as-tu vu mon courriel? » C'est le titre de cet article.
Tu peux imaginer, Daniel, je porte plusieurs choses. Chapeau. Hein. J'en ai mis ici,
oui,
j'ai un festival littéraire, j'ai aussi une pratique artistique complète, comme auteur et comme comédien. Alors, imagine que le matin, des fois, je me lève puis j'ose même pas allumer mon ordinateur parce que j'ai peur de voir le nombre de courriels qui m'ont été envoyés.
Absolument. Puis aussi, le cellulaire, il y a la tablette. Puis moi, le soir, lorsque je me couche, je baisse le volume de tout ce beau monde-là pour pas entendre les notifications.
Parce je mets ça off, moi.
Puis la nuit, regarde leur truc, puis ils envoient des petits cœurs, puis des petits cœurs après 9h. J'ai pas vraiment le goût. Mais au travail, as-tu vu mon courriel?
Ah,
il y a une pression qui provient justement des attentes. C'est ce que rappelle la professeure Julie Dextra-Gauthier. Et elle a répondu à la journaliste. Et puis, as-tu reçu mon courriel? Ben, celle de répondre rapidement et d'être toujours prêt, puis aussi être à l'affût. Mon Dieu, que c'est stressant, ça. Alors, ce n'est pas une urgence, et pourtant, votre collègue vous envoie un message sur Teams, puis un texto pour vérifier si vous avez bien reçu son courriel. Hey! La multiplication des plateformes de communication crée un stress auquel personne n'échappe, hein? Et comment mieux gérer ses courriels et tous ses canaux, hein? On parle des fois de s'abstenir de regarder des écrans, entre autres. Mais en moyenne, un travailleur reçoit, imaginez, 117 courriels par jour, selon une étude réalisée dans 130 pays et publiée en juin dernier par Microsoft. Alors, en comptant les 153 messages reçus sur Teams, les appels imprévus et les notifications provenant d'autres plateformes, un employé a interrompu en moyenne toutes les 2 minutes, soit 275 fois par jour. Alors, on se pose la question, comment rester concentré dans pareilles circonstances et surtout, comment ne pas devenir agacé, frustré, puis dépassé? Il faut savoir que ça prend entre 12 et 23 minutes pour revenir à son niveau optimal de concentration et reprendre sa tâche principale. principal. C'est ce que souligne François Courcier, qui est psychologue et professeur à l'Université de Sherbrooke. Il faut aussi de la déconnexion et du repos, tu sais, se déconnecter de ses écrans, entre autres. Alors, la gestion des fameux courriels est rendue possible en tout temps grâce ou encore à cause de l'hyperconnectivité et la pierre angulaire des journées de travail des employés et des gestionnaires. Ben donc, une saine gestion peut éviter non seulement des conflits, mais des problèmes de santé mentale. Si on n'arrive pas à se détacher psychologiquement du travail, on ne repose pas son cerveau, son fameux disque dur. On ne se donne pas de chance non plus de récupérer. C'est ce que renchérit Julie Dextras-Gauthier, qui est professeure à l'Université Laval. Alors, elle est professeure au département de management, de gestion. Cela mène donc à une fatigue qui peut mener à des problèmes de santé mentale, puis le mot, hein, voire à un burn-out. Répondre aussi en tout temps à ces courriels, ben, dans des délais acceptables, semble impossible pour bien des travailleurs. Parce que la quantité est astronomique et le temps est quand même restreint, hein? Les journées rallongent pas pour autant. Alors, je considère qu'il faut répondre en maximum 24 heures. C'est ce que raconte Maggie Lambert, qui est rédactrice web et adjointe virtuelle. C'est une question de respect et de politesse. Et elle, ça la met hors d'elle-même, quelqu'un qui ne répond pas du tout. Bon, mais des fois, il y en a qui ont 3000 courriels, je sais pas, mais en tout cas, c'est de la gestion. Le mot gestion. Selon François Courcier, qui est psychologue, un peu d'autodiscipline est à la base d'une meilleure hygiène de vie au travail. Il suggère donc de regrouper les moments où on lit ses courriels et on y répond. On peut le faire le matin, puis après la pause du lunch et avant de finir de travailler, disons, on calcule 30 minutes chaque fois. C'est bien mieux que de le faire au fur et à mesure. Ça, c'est ce que je trouve pas bête. Selon lui, mettre en place une charte d'équipe est un bon début. Alors, il donne l'exemple. Un élément urgent nécessitera un coup de fil, hein? Pourquoi perdre son temps à écrire, causons, appelons. Mais si c'est non urgent, alors on s'accorde un délai de 24 heures, le fameux 24 heures, pour répondre aux courriels. Et on exclut les soirs et les week-ends. Parce qu'il faut se reposer, hein? Je vous disais ça il y a quelques minutes. Alors, idéalement, entre 18h et 6h du matin, on ne répond pas et on ne s'attend pas à une réponse, précise-t-il. On peut décider en équipe que s'il y a une urgence, on se rend physiquement au bureau de l'autre. Et en deuxième recours, on appelle. Et en dernier recours, on envoie un courriel. Et en établissant un mode de fonctionnement, on s'enlève beaucoup de pression. Alors, la pression provient des attentes, hein? Ce que mentionne Julie Dextras-Gauthier. Ben, c'est celle de répondre justement rapidement, d'être toujours prêt et à l'affût. On se sent donc submergé et on se sent surchargé. Elle renchérit et on aime dire qu'on a droit à la déconnexion, mais il y a de grandes attentes de disponibilité. Ralentir et atteindre un bien-être numérique, c'est une responsabilité partagée entre l'employé et le gestionnaire. Elle, Julie Dextras-Gauthier, donc propose 4 pistes de solutions et aussi de réflexion pour mieux gérer sa boîte de courriel et ses divers canaux de communication. Alors, tout d'abord, numéro 1, se questionner quant à la culture du CC de copie conforme, soit le fait de copier plusieurs personnes de l'équipe pour faire circuler et donner de l'information. Ensuite, ce serait de réfléchir aux normes sociales, comment les membres de l'équipe souhaitent communiquer entre eux, hein? Posons la question. On peut dire à nos collègues et à notre patron, je considère que je reçois trop de courriels et ça me génère du stress. Ben ça, elle doit l'avouer, elle le dit, puis je pense que c'est vrai. Ça prend du courage, mais ça se dit ça.
Oui, tout à fait.
Hein? Il faut le dire. Alors, prendre sa place. Et troisièmement, ben, il est très important, selon Mme Dextras-Gauthier, de s'entendre sur ce qui constitue une urgence. Hein? Tout n'est pas urgent. Et sur la façon d'y répondre. On peut s'entendre alors sur un délai de réponse et on peut même y accoler des mots-clés afin que tous puissent reconnaître une urgence. Hein. Il y en a qui sont toujours sous gros nerfs, fait que vraiment une vraie urgence. Et quatrièmement, ben le gestionnaire a un rôle à jouer. Ben oui, si celui-ci a participé à l'élaboration d'une politique de déconnexion, mais qu'il envoie des courriels à 6 heures du matin, ben là, il y a de l'incohérence hein, qui risque de créer des frustrations. Et il y a aussi des exceptions parfois, hein, qui souligne Julie Dextra. Gauthier. Peut-être aussi dans sa façon de gérer son équilibre de vie personnelle et travail, cela a du sens d'envoyer des courriels à l'eau, ce qu'elle mentionne comme exemple, mais alors il doit le dire clairement, le gestionnaire. Je ne m'attends pas à ce que vous répondiez. Et ça prend aussi une conversation franche avec votre gestionnaire. Une bonne nouvelle, est-ce qu'il y en a une bonne nouvelle? Les organisations parlent de plus en plus de déconnexion et de bien-être numérique. Et les solutions se mettent tranquillement en place, avance justement l'experte. Il faut aussi développer un consensus autour des normes sociales et se remettre en question comme individu pour réussir à modifier nos habitudes. Et puis, ben là, c'est que c'est pas gagné d'avance, mais elle demeure quand même optimiste par rapport à cette gestion des courriels. Alors, c'était le petit conseil du jour concernant les courriels, puis peut-être de prendre de bonnes résolutions aujourd'hui.
C'est très stressant. Il y a des gens qui il y a des gens qui aiment beaucoup les notifications sur le téléphone, hein,
oui,
Messenger,
oui.
Les SMS, etc., etc. Et ça les stimule. Moi, j'avoue que ça me stresse énormément, surtout quand je suis dans des périodes de travail comme présentement. Je gère deux choses en même temps, tu sais, l'animation et un festival. Et hier, je me disais, et c'est fou parce que les gens écrivent et parfois tu leur avais envoyé un courriel, t'expliquais tout ce qui était à faire et ils te reposent les mêmes questions dont les réponses se retrouvent dans le courriel original.
Ah, je sais.
Les gens ne lisent pas les courriels qu'on leur envoie non plus.
Non.
Alors oui, c'est tout ça, je trouve que c'est stressant. Et oui, j'ai un exemple la semaine dernière, quelqu'un m'écrit et puis je vois le courriel, c'était sur LinkedIn, je vois le message. Alors, il a vu que j'ai lu le message. Et au bout de 20 minutes, il m'écrit, mais est-ce que tu vas me répondre bientôt?
Oh, c'est intense. Voyez-vous, c'est ça. Puis c'est des individus qui gèrent à leur façon les courriels, les messages, tout ça. Il y en a qui sont plus prompts. Il y en a d'autres qui disent, on a un délai de 24 heures, prends ton temps. Puis il y a des gens aussi qui accumulent des courriels. Moi, j'ai vu dans une boîte d'une amie, je pense qu'elle avait 2 000-3 000 courriels. Franchement,
c'est spécial. Hein? Ouais. Mais moi, maintenant, j'ai une réponse automatique. Alors, lorsque je suis bien occupé, je dis aux gens, ben là, je suis désolé, je suis très occupé. Si c'est urgent, veuillez retourner votre message, inscrivez le mot urgent, sinon je vais vous répondre quand je pourrai.
Et c'est sage.
Oui, puisqu'il le faut, parce que c'est très stressant.
Puis quand on est rendu qu'on écrit un roman, prends le téléphone, puis téléphone la personne en question.
Ah oui, ça aussi, si c'est vraiment urgent, tu peux m'appeler. Hein?
Absolument.
Merci beaucoup, Daniel. On se reparle la semaine prochaine?
Ah oui, tout à fait.
Excellent, merci beaucoup.
Au revoir.